Bien, nous tournons donc dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Apocalypse au chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Apocalypse 6, verset 12, « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister ?» Nous avons déjà dit que dans ce livre de l'Apocalypse, il y a plusieurs descriptions, plusieurs aperçus de l'histoire de l'Église, de l'histoire de l'ère de l'Évangile, de cette période qui va de la mort, résurrection, ascension de Christ jusqu'à son retour dans la gloire. Et cette description que nous sommes en train de voir, qui est décrite par l'ouverture des sceaux, des sept sceaux de l'histoire, nous voyons que cette description de l'histoire se termine ici avec l'ouverture du sixième sceau. Nous verrons le septième sceau tout à plus tard. Le sixième sceau, donc, qui décrit la dissolution de la création et qui s'accompagne de la vision au chapitre 7 de l'Assemblée des croyants au ciel. Les autres descriptions de l'histoire dans l'Apocalypse, vont décrire la fin de l'histoire d'une autre manière. Par exemple, au chapitre 11, versets 15 et suivants, parle de la dernière trompette qui retentit, qui annonce le jugement. Au chapitre 14, versets 14 et suivants, ce sont trois anges qui viennent moissonner la terre avec des faucilles. Au chapitre 16, versets 17 et suivants, c'est la septième coupe de la colère de Dieu qui est déversée. Au chapitre 18, c'est tout le chapitre, c'est la chute de Babylone. Au chapitre 19, verset 15, on parle du cavalier sur un cheval blanc qui foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et au chapitre 20, verset 11 et suivant, c'est la vision du grand trône blanc d'où part le jugement contre les incroyants contre Satan lui-même. Et ces sept scènes décrivent en fait, la même chose, mais sous un autre angle. Elles décrivent ce que, ici, au chapitre 17, au chapitre 6, pardon, verset 17, nous est décrit comme étant le grand jour de la colère de Dieu. Premier mot sur la feuille. Voilà. Donc, mais dans la description de l'histoire donc, que nous étudions, avec l'ouverture des sept sceaux, le sixième sceau, donc, nous fait apparaître le jour du jugement. Rappelez-vous, les quatre premiers sceaux ont fait relâcher les cavaliers de la conquête militaire, de la violence dans une société, de la famine, de la mort. Et ces quatre cavaliers caractérisent tous les maux que nous pouvons connaître dans cette ère de l'Église, dans cette histoire entre l'ascension du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire. Le cinquième sceau que nous avions vu la dernière fois nous a montré les âmes des martyrs qui sont au ciel, martyrs étant pas seulement ceux qui sont morts pour la foi, mais tous les témoins du Seigneur Jésus-Christ qui sont morts pendant cette période sous les quatre sceaux, les quatre premiers sceaux. Et le sixième sceau est en réalité une réponse à la prière des martyrs pour l'intervention de Dieu, pour qu'il juge, pour qu'il venge son peuple. Dieu leur avait dit au chapitre 6, verset 11, qu'ils devaient encore se tenir en repos, qu'ils devaient encore patienter quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères. Et le sixième sceau donc, nous remontre que ce nombre sera complet au temps marqué par Dieu lui-même. Quand le Seigneur Jésus-Christ ouvre ce sixième sceau, nous voyons donc le jour de la colère de Dieu. Le commentateur dit ceci, « Ce jour, ce sixième sceau décrit la grande catastrophe qui mettra fin à l'âge présent. La détresse et la terreur, la crainte et la consternation qui marqueront ce grand jour sont dépeintes par le double symbolisme de l'effondrement de la terre et de l'effroi général qui saisira la race humaine. » Et on va se saisir de cette déclaration pour voir deux points principaux, et le troisième sera l'application. Donc, le premier point, la dissolution de la création. C'est le deuxième mot sur la feuille. Mais bien sûr, en lisant cette description ici, la question est, est-ce que tout cela est symbolique ou est-ce que c'est une description plus ou moins littérale ? La lecture symbolique, elle est défendue par ceux qui ont le point de vue prétériste. On en a parlé tout au début. Et ils décrivent donc que ce langage qui est utilisé ici est un langage qui est symbolique. Il décrit l'effondrement de la société plutôt qu'une dissolution physique. C'est par exemple c'est un point de vue qui est défendu par ceux qui disent que le livre de l'Apocalypse est jeune, écrit avant la chute de Jérusalem. Et donc pour eux, ce qui est décrit ici, ce n'est pas le jugement dernier, mais c'est la chute de Jérusalem en l'an 70. Et on a dit pourquoi on n'acceptait pas ce point de vue-là, puisque le livre a été écrit en l'an 95. Mais pourquoi je cite ce point de vue ? Parce qu'il est quand même intéressant. Les arguments qu'utilisent les personnes qui défendent ce point de vue sont plutôt impressionnants. Ils disent que les images des calamités que l'on voit ici décrites sont tirées des passages de l'Ancien Testament dans lesquels ces mêmes images sont utilisées pour décrire des événements historiques. De l'intervention de Dieu dans la chute d'empire, dans la chute de ville, ou simplement dans le fait de sa manifestation. Par exemple, quand on parle d'un tremblement de terre, ici, dans ce passage, ils nous font rappeler que quand l'Éternel est venu sur le mont Sinaï, la terre a tremblé, Exode 19. Mais on retrouve aussi, par exemple, dans le livre du prophète Nahum, au premier chapitre et au verset 5, qu'il est question de tremblement de terre quand l'Éternel annonce la chute de Ninive. Quand le soleil s'obscurcit, on le retrouve en Exode chapitre 10, quand l'Éternel va juger le pays d'Égypte. En Ézéchiel 32 et verset 7, même chose, la lune ne donne plus sa lumière, c'est encore un autre jugement ultérieur sur le pays d'Égypte. Mais la plupart des images, des métaphores que l'on a ici se retrouvent dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 13, par exemple, versets 9 et suivant, « Voici le jour de l'Éternel arrive, le jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. » Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Et dans ces passages, donc, les personnes qui adoptent le point de vue prétériste voient les calamités qui décrivent la chute des nations, la chute de ceux qui dirigent ces nations rebelles. Et dans le cas du sixième sceau ici, dans l'Apocalypse, il voit que ces images s'appliquent pour la chute de Jérusalem. Et ils vont dire, entre autres, par exemple, qu'une interprétation littérale n'est pas possible parce que les étoiles sont beaucoup trop grandes pour tomber sur la Terre. Elles sont beaucoup trop grandes, plus grandes que la Terre, donc impossible de les décrire comme tombant sur la Terre. Et donc pour eux, le sixième sceau représente le jugement de Dieu contre le peuple d'Israël qui s'est opposé à l'Évangile. Dieu va enlever cette opposition à l'Évangile, comme plus tard, par exemple, il va détruire Rome, il va enlever Rome à cause de sa persécution contre l'Église. Mais il y a des raisons pour adopter l'interprétation littérale qui confirme ou qui affirme que ce sixième sceau annonce une dissolution littérale de la création. Tout d'abord, même si on reconnaît, même si on est d'accord avec le fait que ce symbolisme est souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire la chute d'empires, la chute de villes et de dirigeants qui sont opposés à l'Éternel, il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament qui montrent que ces jugements temporels sont en fait une anticipation du grand jour du jugement final de Dieu à la fin des temps. Ésaïe 24, par exemple, va utiliser le même symbolisme que nous trouvons ici en Apocalypse chapitre 6, et 24 verset 1. « Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. » Mais plus important encore, c'est le chapitre 34 d'Ésaïe. Et il est fort possible, certains commentateurs pensent, que Jean ait ce passage en tête quand il écrit ici l'Apocalypse, ces passages dans Apocalypse 6. Ésaïe 34, les versets 1 et 2. L'Éternel s'adresse à la terre entière, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Et puis au verset 4, toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Et on voit donc que l'Éternel, par la bouche du prophète Ésaïe, décrit un jugement universel dans lequel toute la création est dissoute. Et donc cela rejoint bien ce que nous avons ici en Apocalypse chapitre 6. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce que nous avons lu ici au chapitre 6, à partir du verset 12, est une réponse aux prières que nous avons sous le cinquième sceau. Ces prières qui appellent au jugement de Dieu sur toute la terre. Et on retrouve ce langage ailleurs, nous le verrons plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Mais une lecture littérale de ce passage et du sixième sceau, un autre argument, c'est qu'elle s'accorde avec la description que donne le Seigneur Jésus de ce qui va arriver et ce qu'il a dit lors de son discours sur le mont des Oliviers. Quand il parle de son retour à la fin des temps, il décrit le soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donne plus sa lumière, les étoiles qui tombent, les puissances des cieux qui sont ébranlées, Matthieu 24, versets 29 à 32. Et il utilise même la métaphore du figuier pour souligner l'importance d'être prêt pour ce jour. Et non seulement le Seigneur Jésus-Christ affirme, non seulement ce passage est confirmé, bien sûr, par ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, mais aussi par les apôtres, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 10, « En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Et en décrivant donc la dissolution littérale de la création, il faut se rendre compte qu'il y a des éléments symboliques tout de même. Mais La lecture principale est quand même une lecture littérale de la dissolution de toute la création telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc les versets 12 à 15, 14 nous décrivent six choses au sujet, en décrivant la création. Et l'idée dans le nombre 6, bien sûr, c'est l'idée de l'imperfection, qui appelle le jugement. Un commentateur dit ceci: il est intéressant de noter à ce sujet que ce déversement final de la colère divine sur la race humaine est représenté sous le sixième sceau. Six, ou plutôt 666, comme nous l'apprendrons à Apocalypse 13, 18, étant le nombre de l'homme. Et le déversement final de la colère divine frappe six éléments de la création et six catégories d'hommes. Donc, quels sont les éléments de la création ? Le verset 12 parle tout d'abord d'un grand tremblement de terre. Et rappelez-vous, nous avons vu, quand nous avons étudié les lettres envoyées aux églises qui sont en Asie, que beaucoup de villes auxquelles Jean s'adressait avaient déjà connu un tremblement de terre, avaient connu la dévastation que provoque un tremblement de terre. Mais ici, il est question de toute la terre, pas simplement dans un endroit donné de la terre, mais c'est toute la terre qui tremble. Toute la terre est secouée. Et cela, bien sûr, va préparer la nouvelle création. Passage pour ceux qui prennent des notes, Agé 2, versets 6 et 7, et puis Hébreux 12, 26 et 27. Ensuite, après le grand tremblement de terre, il y a le soleil qui devient noir comme un sac de crin. Alors, toutes sortes d'explications, mais la couleur noire comme un sac de crin, c'est référence au sac de toile qui est tissé avec du crin noir des chèvres. Et il y a une idée là d'humiliation, de lamentation. Ensuite, la lune qui se change en sang, cela parle de quelque chose d'une calamité qui est sur le point d'arriver, d'un carnage. Le verset 13 parle des étoiles du ciel qui tombent sur la terre comme des figues mortes, d'un figuier secoué par un vent violent. Certains pensent aux météorites, mais cela me semble décrire tout simplement le ciel qui tombe, comme les fruits qui n'ont plus de sève et qui tombent de l'arbre. L'image est terrible. Pour les personnes de ce temps-là, du premier siècle, parler de ciel qui tombe, c'était l'image de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Luc 21, verset 11, dit qu'il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Le verset 14 ajoute: « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. » Et là, l'image est celle de la dissolution du cosmos tel qu'on le connaît, tel qu'on le voit depuis la terre. On sait que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, lors de son baptême, les cieux sont ouverts. Nous lisons cela en Marc 1, verset 10. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient dans la gloire, les cieux seront roulés comme un manteau. Cette création, cet univers tel que nous le connaissons, arrivera à sa fin. Hébreux 1, verset 12. Et ces images parlent d'événements qui vont prendre à la fin, qui vont se passer à la fin. Pas des choses qui vont se passer vers la fin, mais à la fin. La chute des étoiles, le repli du ciel, c'est quelque chose qui arrive véritablement à la fin de l'histoire. Et puis il y a aussi ce qui est frappant, ces choses qui décrivent ou qui sont les illustrations de ce qui est permanent. On voit les montagnes et les îles, et au verset 14, il nous est dit qu'elles sont remuées de leur place. On verra plus tard au chapitre 21, verset 4, que cela, ce que nous dit l'Apocalypse, ce que nous dit la parole de Dieu, que les premières choses ont disparu. Même ce qui était le symbole de quelque chose de permanent, les montagnes et les îles vont être changées de leur place. Et quand on considère ces images ensemble, elles parlent réellement de la dissolution littérale de ce monde, de cette création. Ce monde qui a été corrompu par la chute d'Adam, Genèse 3. Ce monde qui est condamné parce qu'il a refusé, parce qu'il a rejeté le Fils de Dieu. Et cette dissolution de la création ouvre, laisse la place à la nouvelle création, à l'âge de gloire que l'on connaîtra si nous sommes à Christ, que l'on connaîtra avec lui pour toujours. Donc il s'agit bien d'une dissolution littérale de cette création telle que nous la connaissons. Mais le deuxième point, et nous voyons ici la détresse de l'humanité et de l'humanité qui est condamnée. Les événements qui nous sont rappelés, qui nous sont apportés ici, révèlent aussi l'effroi que va connaître la race humaine. Ceux qui sont en dehors de Christ n'y échapperont pas. Versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Et comme l'a dit le commentateur que nous avons lu, le cité tout à l'heure, nous voyons ici Jean citer, diviser l'humanité en 6 catégories. Et toutes les catégories connaissent la colère de Dieu. Et le fait de décrire ces catégories et de diviser la société en différentes catégories souligne que lorsque Dieu va juger ce monde, il ne fait pas de distinction. Ce n'est pas parce qu'une personne est plus élevée dans la société qu'elle a plus de privilèges devant Dieu. Non. C'est le même standard pour tout le monde, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit libre ou esclave. Un commentateur le souligne, cette liste montre que Dieu ne fait pas de différence. Il juge chacun sur la même base, quelle que soit sa position sociale, politique ou économique. Mais on note quand même qu'en viennent en premier les rois et les grands de ce monde. Le jugement commence par le haut de la société. D'abord les rois, aujourd'hui on dirait les présidents. Il y a des passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent de rois, je pense au psaume 2 par exemple. Psaume 2, verset 2, « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint ?» Et nous lisons au verset 9 de ce psaume 2, « Tu les briseras avec une verge de fer. » Ensuite, nous lisons qu'il y a les grands, les députés, les princes, les ministres, ceux qui partagent le pouvoir, toujours sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte de Christ. Il y a ensuite les chefs militaires, les généraux, qui ont connu la gloire, qui ont connu l'honneur, souvent sur le champ militaire, mais qui doivent aujourd'hui, ils doivent maintenant subir la colère de Dieu. Il y a les riches qui souvent ont plus de pouvoir que les présidents. On pense à ceux qui financent tous les politiques. Il y a ensuite les puissants, ceux qui ont de l'influence. On pense à tous ceux qui font partie des lobbies. Toutes ces personnes gouvernent un monde qui est rebelle contre Dieu. Toutes ces personnes s'opposent au règne de Christ. Toutes ces personnes doivent subir la colère de Dieu. Mais il y a aussi les gens ordinaires. Tous les hommes, qu'ils soient libres ou esclaves, tous vont connaître cette terrible condamnation que mérite leur rébellion contre Dieu. Et cette humanité qui est face à la colère, la révélation de cette colère de Christ, réagit de deux manières. Il y a d'abord une vaine tentative de fuir, verset 16. Il disait aux montagnes, aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous » Et en disant cela, ils affirment qu'il n'y a rien de plus terrible que de connaître le jugement de Dieu. Le langage que l'on trouve ici nous rappelle le langage de ce passage d'Ésaïe 2 que nous avons lu tout à l'heure, qui parle du jugement des idolâtres. Et la réalité est que toute l'humanité est idolâtre, puisque l'homme a adoré la création au lieu de la créature, de la créature au lieu du créateur. Romains chapitre 1, versets 21 et suivants. La création est devenue une idole, donc il faut enlever la création et punir les idolâtres. Et nous avons lu Ésaïe 2, verset 10, par exemple. « Entre dans les cavernes des rochers, cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. » Et versets 18 et 21, « Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et d'or, et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, ils les jetteront aux rats et aux chauves-souris. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. » Il y a un commentateur qui fait cette comparaison et dit « Lorsqu'un pays est frappé par un désastre aujourd'hui, on verra que les dictateurs auront des fortunes en Suisse, que les généraux auront des avions pour les emmener dans un lieu sûr en Amérique du Sud, et que même les gens de classe ouvrière auront des moyens pour éviter le désastre. Mais ce ne sera pas le cas quand Christ viendra pour exécuter ses jugements. Ce ne sera pas le cas. Ce jour-là, tous les hommes, qu'ils soient riches, pauvres, qu'ils soient grands, petits, libres, esclaves, seront amenés devant la colère, devant Dieu, pour subir la colère de l'agneau, et ne pourront pas échapper devant lui. Impossible, la fuite est tout à fait impossible, la tentative de fuite est vaine. » Mais il y a aussi une deuxième chose, il y a cette terreur au milieu du jugement. Verset 16, nous lisons que ces personnes disent qu'il est préférable de mourir plutôt que de se trouver devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau. Il est préférable de mourir, tomber sur nous. Cela nous rappelle bien sûr le jardin d'Éden, Adam et Ève, qui ont fui devant la face de Dieu après avoir péché. Et aujourd'hui encore, toute la race humaine est unie dans son désir d'éviter de faire face à son Créateur. Ce que le pécheur craint le plus, ce n'est pas la mort, mais c'est la présence de Dieu. C'est d'être en face de son Créateur. Et Dieu se révèle ici comme le Créateur qui est assis sur son trône. Il se révèle aussi comme l'agneau que cette humanité a rejeté, a méprisé. Cette humanité qui s'est moquée de l'agneau, qui s'est moquée de l'œuvre que l'agneau est venu accomplir à la croix. Cette humanité maintenant se retrouve dans la terreur totale quand le jour de la colère de l'agneau arrive. Et cette humanité, bien sûr, terrifiée, verset 17 s'écrie, « Qui peut subsister ?» Et la réponse, nous allons la voir au chapitre 7. Où nous voyons cette foule de croyants rachetés qui sont au ciel, de ceux qui ont cru dans l'Évangile, de ceux qui ont confessé leur besoin de pardon, qui ont reconnu leur péché, qui sont venus à Christ dans la repentance et la foi et qui ont été délivrés de la colère à venir. Apocalypse 7, versets 9 et 10, Jean voit une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Eux peuvent subsister et ils subsisteront. Mais cela nous amène au troisième point. Donc, le grand jour de la colère de l'agneau, et nous allons retirer quatre applications de ce passage. La première application est celle-ci. Si la terre celle que nous connaissons va être détruite au jugement de Dieu, nous devrions vivre en regardant au monde à venir et ne pas s'attacher à ce monde présent qui passe. Nous devons regarder à ce monde qui est à venir, ne pas s'attacher à ce monde qui passe. Et c'est l'argument que l'on va retrouver dans tout le Nouveau Testament, dans les lettres. Paul écrit par exemple, en 1 Corinthiens 7, verset 31, que la figure de ce monde passe. Et même si le croyant peut jouir des bienfaits, des choses de ce monde, il ne doit pas vivre pour ce monde. Il ne doit pas vivre et s'attacher aux choses de ce monde. Ce monde ne va pas durer. Même les meilleures réalisations, même tout ce qui nous émerveille, les beaux monuments, même les plus belles gloires de notre histoire, tout cela va être détruit, tout cela va périr. Si nous croyons que ce monde va laisser place au royaume éternel du Seigneur Jésus-Christ, alors nous devons rechercher les royaumes, les trésors de ce royaume. Nous devrions honorer le Seigneur Jésus-Christ par notre obéissance à sa parole, par notre service pour son Église, par notre vie vivant cette nouvelle identité qui est la nôtre en Christ, et proclamer son Évangile. Cela nous pousse bien sûr à nous examiner nous-mêmes. Si on regardait notre agenda, si on regardait notre page Facebook par exemple, qu'est-ce que cela dirait au sujet de nos priorités? Est-ce que nous sommes davantage focalisés sur les réalités célestes du royaume à venir, du royaume de Christ, ou est-ce que nous sommes trop pris par les choses de ce monde? Pierre dit dans sa deuxième lettre, 2 Pierre 3, versets 11 et 12, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Donc, première application, ne pas s'attacher à ce monde qui passe, mais chercher les trésors dans le royaume éternel de Christ, ce monde à venir. La deuxième application est sans doute, il me semble, une application auquel Jean devait penser quand il a écrit ce livre et qu'il l'a envoyé aux sept églises qui devaient faire face à la persécution. Nous avons dit tout à l'heure que certains considèrent que les événements décrits ici parlent de la chute de Jérusalem. Un de leurs arguments, et on n'a pas cité tout à l'heure, vient du verset 16, où ceux qui sont jugés appellent les montagnes et les rochers à tomber sur eux et à les cacher. Et le Seigneur Jésus-Christ avait utilisé ce même langage quand il a parlé aux filles de Jérusalem qui pleuraient alors qu'il portait sa croix. Luc 23, versets 28 et 30. Jésus se tourna vers elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Et un peu plus loin, verset 30, « Ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » Mais contrairement à ce que prétendent donc ces personnes, la présence de ce langage ici, en Apocalypse 6, ne prouve pas que le sixième sceau ne décrit que la chute de Jérusalem. Par contre, l'avertissement montre que le jugement final de Dieu sur toute l'humanité, comme on l'a déjà dit, est annoncé tout au long de l'histoire. Dieu a jugé ceux qui s'opposent à son évangile et qui persécutent son peuple. Il a détruit Jérusalem, effectivement, parce que le peuple juif avait refusé l'Évangile, avait persécuté les véritables enfants de Dieu. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans les lettres, où il est même parlé de la synagogue de Satan. Dieu a détruit Jérusalem, mais et le Seigneur, en Matthieu 24, avait annoncé à ses disciples, « Quand vous voyez ces choses, fuyez aux montagnes. » Et les disciples ont été préservés. Et plus tard, Dieu a jugé l'Empire romain parce que les Césars ont persécuté les croyants. Et quand l'évangile a été accepté, ils ont corrompu l'évangile, ils ont corrompu l'Église, et Rome a été enlevée, a été jugée par Dieu. Et tout au long de l'histoire, on pourrait s'attarder et voir comment Dieu juge les ennemis de l'Évangile, comment il délivre son peuple. Aujourd'hui, on vit dans une société où on voit essentiellement un humanisme sans Dieu. On voit une hostilité même de la part du gouvernement contre Dieu, contre l'Évangile de Christ. Et on doit se dire que cela ne peut qu'appeler un jugement de la part de Dieu. Et tout comme Dieu a répondu aux prières des croyants au verset 11, avec les jugements donc, que nous avons ici au verset 12 à 17, Dieu entend les prières de son peuple aujourd'hui, son peuple qui souffre, et il répondra d'une manière ou d'une autre. Et sachant cela donc, sachant que Dieu juge ceux qui s'opposent à l'Évangile et qu'il sauve son peuple, si nous devons faire face à l'opposition, comme les églises de ce premier siècle allaient faire face à la persécution, allaient connaître la difficulté, nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas faire de compromis avec le monde, mais nous sommes appelés à persévérer. Persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, persévérer dans le témoignage, parce que Dieu délivre son peuple et la délivrance est proche. La deuxième leçon, donc, persévérer. La troisième application que l'on peut tirer de cela, c'est que le chrétien ne doit pas avoir peur d'être pris au milieu de ces événements terribles. Nous lisons au verset 16 que ceux qui connaissent le jugement final, sont là et veulent être cachés, ne veulent pas être devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Mais qui est celui-ci sur le trône? Celui qui est sur le trône est notre Dieu. Et nous avons déjà vu depuis le début de ce livre que Dieu est souverain sur toutes choses. Donc, ce qui se passe ici n'est pas un hold-up, c'est l'accomplissement de l'histoire. C'est l'accomplissement de l'histoire telle que la parole de Dieu nous le révèle. De ce trône, nous savons, viennent les promesses de Dieu. Lui qui est et qui règne toujours et qui est toujours sur le trône. De ce trône viennent les promesses. Nous avons par exemple vu au chapitre 4 l'arc-en-ciel qui englobe tout le trône, qui rappelle à Dieu son alliance de grâce. Et nous avons cela en Romains 8, verset 30. Nous avons ce plan que Dieu a pour son peuple en Christ. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voilà la volonté de Dieu pour son peuple en Christ. Romains 5, 1, 2 nous dit qu'étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Est-ce que nous allons succomber? Est-ce que nous allons être perdus dans ces événements lorsque la dissolution de la création va prendre place? La réponse est au chapitre 7. Toute âme que le Seigneur Jésus-Christ a scellée dans ce monde sera avec lui dans la gloire. Tous ceux qui sont scellés en Christ seront avec lui dans la gloire. Pas une ne sera perdue. Pas une ne sera perdue. Et parce que nous sommes réconciliés, parce que nous sommes justifiés avec Dieu, parce que nous avons la paix avec Dieu, nous avons déjà aujourd'hui le désir de le voir, le désir d'être devant lui. Et quand ce jour révélera la face de celui qui est sur le trône, ce ne sera pas la peur qui remplira nos cœurs, mais l'adoration. L'adoration et la louange. Parce que nous serons en face de ce Dieu qui nous a aimés depuis toujours et qui nous a donné son propre Fils comme sauveur. Nous serons devant Dieu pour toujours. Donc nous n'avons pas à craindre, de, si nous sommes à Christ, d'être perdus au milieu de ces événements, au milieu de toute cette catastrophe qui va se passer. Non, si nous sommes scellés en Christ, nous sommes gardés pour ce jour et pour l'éternité. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Et la quatrième application est celle-ci. Elle s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas encore cru. Parce que ceux qui ont entendu l'Évangile et qui n'ont pas encore cru doivent réaliser que ce temps de la grâce, cette ère de l'Église qui va de la résurrection, l'ascension de Christ jusqu'à son retour dans la gloire, ce temps de la grâce où il y a l'opportunité de répondre au message de venir à Christ, de connaître le salut par la foi en Christ, ce temps va un jour se terminer brutalement et sera suivi par le jugement et la colère de Dieu. Et ceux qui n'auront pas cru dans le Seigneur Jésus-Christ n'auront plus la possibilité de crier à lui pour le salut et ils ne pourront plus échapper à sa colère. Un commentateur le dit de cette manière, l'agneau docile qui a été immolé à la croix est maintenant dans une position exaltée au-dessus de tout le cosmos pour déverser sa colère. Il n'est pas simplement plein d'amour pour son peuple, il est aussi le juste juge de ses ennemis. Quand le seul sauveur qui a été donné au monde, devient son juge plein de colère. Il n'y a plus d'opportunité de salut pour ceux qui ne se sont pas approchés de Christ dans la repentance et la foi. Mais aujourd'hui est encore un jour de grâce. Aujourd'hui est encore le jour de grâce. Et tout à l'heure, nous avons cité le psaume 2, qui parle de la rébellion des rois, des princes de ce monde et de la destruction, de leur destruction sous la verge du Seigneur Jésus-Christ. Et ce psaume termine par cet appel, cette promesse, verset 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Heureux sont ceux qui se confient en lui. Que Dieu donc nous aide à comprendre, à méditer sur ses paroles et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.